16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Même si Mathieu, vous savez que j'ai été décoré par la reine d'Angleterre.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Non, je ne suis pas lord, je veux dire, j'ai juste été épinglé.
Oui, bon Stéphane, mais souvenez-vous, l'histoire sans se la raconter, c'est notre promesse.
Oui, vous avez raison, au fond vous avez bien fait de me couper, c'est notre thème du jour.
Ah voilà.
Oh attention chérie, ça va couper.
Oui, ça va couper chérie. C'est ce qu'auraient pu dire nos personnages du jour dont les épouses ont raccourci leur vie. À commencer par Maurizio Gucci, à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui de House of Gucci avec Lady Gaga et Adam Driver. L'héritier de la célèbre enseigne de mode italienne a été assassiné à la demande d'une femme qui a commandité le meurtre, une femme qui n'est autre que son ex-femme. Puis lui aussi est mort, empoisonné cette fois, l'empereur romain Claude, que sa quatrième épouse Agrippine souhaitait éliminer. Bon, visiblement, ça a réussi. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un banquier qui a mal fini.
Oui Stéphane, tous ceux qui jonglent avec les agios et les découverts ont une fois envie de tuer leur banquier, c'est humain. Heureusement, on ne passe pas à l'acte. Le problème, c'est que le pauvre Edward Stern, éminent banquier, ce n'est pas un client insolvable qui l'a énervé, c'est sa maîtresse sadomaso. La morale de cette histoire sera ne jamais énerver sa maîtresse sadomaso.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bah écoutez, tous ces époux assassinés par leurs femmes, peut-être qu'ils auraient eu la vie sauve si leurs épouses avaient été s'allonger et se confier chez un bon psy. Or, dans la psychanalyse, quel est l'objet le plus important?
Le divan.
Exactement. Alors, tout le monde a ça chez soi, un divan. Mais le divan de Freud, lui, vient juste d'avoir 130 ans. Il lui avait été offert en 1891 par l'une de ses patientes. Donc, ah oui, bah ça, c'est un objet de l'intimité.
Il est dans un musée ?
Il est à Londres, dans le domicile de Freud, qui est devenu un musée. Je vais vous en parler.
David Castello-Lopez est avec nous, comme chaque après-midi. Et vous savez, il remonte toujours aux origines de ce qui fait notre quotidien, Stéphane. Mmh,
oui.
Et vraiment, un élément important de notre quotidien, c'est le string.
Oui. Voilà, des fois je fais des choses un petit peu étonnantes. Là, c'est droit devant, c'est le string.
Droit devant, oui.
Vous avez amené des photos, parce que souvent vous illustrez vos chroniques.
Je pense
avec
que tout le monde voit bien, là.
La ficelle est un peu grosse, là.
Non, oh, Stéphane. Olivier Pouls est avec nous aussi. Mmh. Et lui, il est plutôt, je crois, boxeur que string.
Bien
aujourd'hui,
sûr.
Olivier, vous nous parlez des quatre. Chaque jour, c'est l'histoire d'un produit.
Je vous l'avais promis, il y a quelques jours, on a eu des recettes dans lesquelles on incorporait des capres. Je vais vous dire d'où viennent les capres et les caprons. Ces petites graines qui servent à plein de choses, notamment comme condiment dans la cuisine, entre autres, mais pas uniquement, sur l'île de Pantelleria aussi.
Oh, l'île de Pantelleria.
C'est Carole Bouquet.
Exactement. Où elle fait du vin et je pense des capres aussi.
Elle fait des capres. Des caprices
enfin,
aussi.
Mes amis, avant de vous raconter l'histoire d'un couple sadomaso qui a mal fini, je m'adonnerai moi-même au sadomasochisme dans le rôle exquis du dominateur Burn to be Alive. Vers 5h10, tous en cuir, nous aurons à Burn to be Alive, le plus pervers des quiz d'histoire. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son nom a marqué à jamais l'histoire de la mode et du luxe, mais pas du bon goût, me disait Stéphane à l'instant. Sa mort, commanditée par son ex-épouse qui l'a fait assassiner, a entaché celle de l'entreprise dont il a hérité à l'occasion de la sortie sur les écrans de House of Gucci. Le très chic Stéphane Bern nous raconte Maurizio Gucci, un homme dont la femme a raccourci la vie.
Nous sommes le 27 mars 1995 à Milan, capitale de la mode italienne et internationale même. Le jour débute à peine dans le quartier des affaires. Il est 8h30 ce lundi. L'heure pour des milliers de Libanais. L'heure pour des milliers de Milanais de rejoindre leur bureau après le week-end. Parmi eux, Maurizio Gucci, 46 ans. Il est grand, élégant, plutôt bel homme, comme tous les hommes de sa famille d'ailleurs. C'est un Gucci, héritier de la marque de maroquinerie aux deux G croisés. Le petit-fils de Guccio Gucci, le fondateur, richissime donc. Surtout depuis qu'il a vendu ses parts de la société familiale à une société d'investissement pour environ 150 millions de dollars. Ce matin-là, ce n'est pas au siège de Gucci qu'il se rend, mais dans les bureaux d'une autre société qu'il vient de créer, au 20 de la Via Palestro, face au somptueux musée d'histoire naturelle. Non pas en voiture avec chauffeur, comme on pourrait s'y attendre, mais simplement à pied. L'appartement qu'il possède à Milan se trouve juste à côté, sur le boulevard Corso Venezia. Alors, il préfère marcher, profiter de l'air doux de cette belle matinée du début de printemps. Maurizio Gucci est amoureux. Il projette de se remarier. Certes, son ex-femme ne l'entend pas de cette oreille, mais elle finira bien par l'accepter, pense-t-il. 10 ans déjà qu'ils sont séparés. Bon, il est temps de faire table rase du passé. Pareil côté professionnel, c'en est terminé pour lui des violentes querelles au sujet de l'entreprise familiale. Il a cédé ses actions, qu'il détenait encore de Gucci, fini les violentes disputes de famille, fini les coups bas, les menaces, les insultes, les bagarres même. Un avenir radieux lui tend les bras. Ou pas. Car le destin en a décidé autrement. Arrivé devant l'immeuble de sa nouvelle société, Maurizio Gucci salue le portier, gravit quelques marches, puis c'est le choc. 4 coups de feu retentissent, brutaux, assourdissants. Maurizio Gucci se sent déséquilibré, fauché dans son élan. Une douleur terrible parcourt son corps. Il trébuche, puis s'étale de tout son long. Il y a un homme derrière lui qui tient un revolver à la main. Il vient de lui tirer 3 balles dans le dos, quasiment à bout portant, puis une dans la tête. Le portier, blessé aussi dans la fusillade, se précipite sur lui. Il tente de l'aider, mais il est trop tard. L'héritier est mortellement blessé. Alors qu'il agonise dans le vestibule, se doute-t-il de qui a voulu sa mort ? Depuis quelques années, son ex-épouse dit à qui veut l'entendre qu'elle cherche un tueur à gages pour l'éliminer. Est-ce possible ? Patrizia aurait-elle pu lui faire ça, à lui, le père de ses 2 filles ? La vérité éclatera 2 ans plus tard. C'est bien elle qui a commandité son assassinat. Patrizia Reggiani, l'ex-femme de sa vie, rencontrée près de 25 ans plus tôt lors d'une soirée mondaine au début des années 70. Lui, grand, timide, les dents qui se chevauchent, elle, petite, assurée d'une beauté à faire tourner des têtes, un physique à la Elizabeth Taylor. Pour Maurizio, c'est le coup de foudre. Il lui fait une cour assidue. 2 ans plus tard, en 1972, ils se marient. Leur union ne fait pas l'unanimité. Rodolfo Gucci, le père de Maurizio, désapprouve. Patrizia est certes riche, elle aussi. Son beau-père a fait fortune dans le transport. Mais elle est issue d'un milieu populaire. Ce petit brin de femme au caractère bien trempé n'inspire aucune confiance à celui qui détient la moitié de l'empire Gucci. Rodolfo la soupçonne de vouloir s'élever. Il faut dire que le nom des Gucci a de quoi faire des envieux. La marque connaît alors un succès planétaire, synonyme d'opulence, de style, mais aussi de pouvoir. L'histoire de Gucci commence au début du XXe siècle. Guccio Gucci est alors simple plongeur au palace Le Savoy à Londres. Les richissimes clients qu'il voit descendre à l'hôtel lui donnent une idée, une ligne de maroquinerie de luxe. Aussitôt rentré en Italie, il met son idée à exécution. Le succès est immense. Des boutiques ouvrent partout dans le monde. Gucci devient un mythe, une marque portée par les plus grands de ce monde, même les monstres sacrés d'Hollywood. C'est donc l'héritier d'un empire colossal qu'épouse Patrizia en 1972. Elle le sait bien sûr. Est-ce pour autant qu'elle l'épouse pour son argent ? Le couple semble en tout cas filer le parfait amour durant plus de 10 ans. Tant et si bien d'ailleurs que les réticences du beau-père, Rodolfo Gucci, envers Patrizia, finissent par s'estomper. Il couvre même le couple de cadeaux extravagants, de propriétés somptueuses, dont un penthouse à New York. À Manhattan, les 2 tourtereaux forment un couple uni et célèbre. Ils fréquentent, entre autres, Jackie Onassis et le clan Kennedy, organisent des fêtes somptueuses, partagent leur vie entre la grosse pomme, leur chalet de Saint-Moritz en Suisse, leur villa à Acapulco, une ferme dans le Connecticut et un yacht en bois somptueux. L'un des plus grands voiliers du monde, le Créole. Un bateau qui appartient d'ailleurs toujours à leurs 2 filles, Alessandra, née en 1977, et Allegra, née en 1981. Mais leur bonheur va bientôt s'assombrir. En 1983, Rodolfo Gucci décède, laissant à Maurizio, son fils unique, les 50% de parts qu'il possède de la société familiale. La mort de son père change Maurizio, il n'est plus le même. Un soir de 1985, prétextant un voyage d'affaires, il fait ses valises et quitte le domicile familial. Pourquoi ? Selon Patrizia Reggiani, plus rien ni personne n'a d'importance pour lui à ce moment-là. Et puis, il ne supporte plus l'ingérence de sa femme dans les affaires de Gucci. Vient-il, en la quittant, de signer son arrêt de mort ? Pas encore. Certes, de la bouche même de l'avocat qui la défendra lors de son procès, Patrizia Reggiani haïssait Maurizio Gucci de manière viscérale, et cela dès son départ du foyer familial. Non seulement son mari l'a abandonnée avec ses 2 filles, mais il l'a fait sans même daigner le lui annoncer en face. C'est, semble-t-il, le médecin de famille qui le lui a appris. Mais c'est un autre comportement qui va bientôt faire déborder le vase. Maurizio a vendu Gucci. Elle, que l'on surnomme Lady Gucci, ne le supporte pas. Gucci, c'est son identité. Elle se sent même, je la cite, « la plus Gucci de tous ». Ce « tous », C'est le clan Gucci. Et ce n'est pas un clan uni, loin de là. Depuis la mort du fondateur Guccio Gucci en 1953, son père, son oncle Aldo et ses cousins Roberto, Paolo et Giorgio se livrent une bataille sans merci pour le contrôle de l'entreprise. Tous les coups sont permis, surtout les plus bas. Exemple, parmi beaucoup d'autres, en 1985, Maurizio est dénoncé à la justice par ses cousins pour avoir falsifié la signature de son père. Ces querelles finiront par avoir raison de l'entreprise familiale. Sous le contrôle de Maurizio à partir de 1989, la société connaît de nombreux revers. En 1993, après une condamnation pour fraude fiscale dont l'instigateur est Paolo lui-même, Maurizio finit par vendre ses parts à l'étranger. C'en est fini de la société familiale. Gucci n'appartient plus à l'Italie. Et ça, Lady Gucci ne peut pas lui pardonner, d'autant que l'énorme somme d'argent qu'il a tirée de la vente est en train de lui échapper, à elle et à ses filles. Car entre-temps, Maurizio a rencontré une femme dont il était perdument amoureux. Elle s'appelle Paola Franchi et il veut l'épouser. Depuis 1990, elle vit avec lui dans un appartement luxueux de Milan, celui-là même qu'il quitte le matin fatidique du 27 mars 1995. Il faudra 2 ans à la police pour remonter la piste du meurtre jusqu'à Patrizia Reggiani. Arrêtée, elle niera en avoir donné l'ordre. Certes, elle aurait caressé l'idée, mais ne serait jamais passée à l'acte. La justice n'en croira rien et la condamne à 29 ans de prison. Libérée pour bonne conduite en 2016, Patrizia Reggiani déclarera à un reporter venu lui demander pourquoi elle avait engagé un tueur à gages plutôt que de tuer Maurizio elle-même. « Ma vue n'était pas assez bonne. » Je ne voulais pas le rater.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Maurizio Gucci, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste des dynasties du luxe. Bonjour Yann Carlo.
Bonjour.
Bonjour Yann Carlo, vous êtes en effet l'auteur des dynasties du luxe, paru aux éditions Perrin, dans lequel vous consacrez un long chapitre à la maison Gucci et à son histoire tapageuse. Vous expliquez que les Gucci étaient fidèles à une règle, celle qui voulait qu'aucune femme n'intervienne jamais dans leurs affaires. Et l'irruption de Patrizia Reggiani a contrarié leur plan en quelque sorte.
C'est un fait, mais il y avait beaucoup de maisons italiennes qui n'aimaient pas avoir les femmes comme directrices, à l'exception de la maison Fendi où il y avait les trois sœurs. Mais les autres avaient considéré que c'est un petit peu comme les pièces rapportées. Et donc, ils ne s'intéressaient pas aux affaires, et quand elle s'y intéressait, c'était navrant. Donc, elle a opté pour la position extrême, elle, qui était de dire, au contraire, nous apportons beaucoup, et vous allez le voir. Et quand elle a décidé qu'elle devait se marier, avant même d'avoir rencontré Maurizio Gucci, elle avait dit partout, « Moi, je vais décrocher le filon ». C'était quand même un terme assez curieux, mais ça voulait simplement dire qu'elle voulait un mariage, bien sûr d'amour, mais essentiellement de lingots d'or.
Ah oui, donc et donc, très clair, annoncer la
c'était
couleur.
Assez clair au départ, puisqu'elle a vraiment été dans l'optique absolue de décrocher quelqu'un qui était à la fois un homme séduisant, mais avec d'immenses pouvoirs, puisque c'était Maurizio Gucci.
Alors, Patrizia Reggiani disait qu'elle était la plus Gucci de tous. Est-ce que c'était vraiment le cas, au-delà de l'épouse, quel était son rôle?
Au départ, non, parce qu'elle a eu beaucoup de mal à entrer dans la famille. Il faut se souvenir que quand ils se sont mariés, donc en 1972, il n'y avait pas un membre de la famille Gucci qui était là, à Milan. Et donc, il y avait un balai, évidemment, très agréable à regarder, de Ferrari, de Rolls et de Bentley. Mais c'était les invités de Patrizia et de Maurizio qui n'étaient pas en très bons termes avec son père, Rodolfo, qui avait un rôle très important dans le groupe.
Vous racontez dans votre livre que les dépenses quotidiennes de Patrizia oscillaient entre 50 000 et 100 000 dollars. Quand Stéphane vous dira qu'on peut très bien vivre avec 10 000 par jour. Effectivement, quand on aime, on
mais
ne compte
comment
pas.
Osez-vous
c'est ce que vous me disiez.
Bon, mais non, c'est vous.
Mais donc là, c'est quand même des sommes extravagantes.
Ah oui, c'est
mais
dingue.
Le niveau
c'est
de vie.
C'est-à-dire que pour elle, elle ne trouvait rien d'extravagant. Elle trouvait que c'était un juste emploi.
Ah oui.
Et comme ses nouveaux amis avaient très vite pour nom, enfin ses amis prétendus, alors il y avait bien sûr la dynastie de Lauder à New York, mais également d'autres sont venus se greffer. Les époux Kennedy, ensuite Jackie Kennedy Onassis. Et donc, quand vous avez des amis de ce type, il est quand même de bon ton de se mettre au niveau. Alors, on a vu affluer dans leur somptueux appartement de la 5e avenue quelques œuvres d'art pour être quand même mieux situées au point de vue milieu. Et Mondrian, bien sûr, et puis quelques autres. Hein, Van Gogh, c'est toujours bien,
toujours chier,
quel qu'il soit. Et surtout, sur sa personne elle-même, elle a opéré des changements changement considérable, puisque elle a indiqué...
c'est la chirurgie plastique alors qu'elle a 50 000 dollars de
chirurgie. Non, je pense qu'elle n'en avait pas besoin au départ, nous verrons, puisqu'elle a aujourd'hui 73 ans. Mais elle était, c'était une très jolie femme, avec beaucoup d'aplomb et de culot, et elle réussissait à peu près tout. Donc c'était bien, et en même temps, elle avait la faculté de faire du ski à Saint-Moritz avec les Niarchos, et puis du ski également à Aspen, donc aux États-Unis, avec d'autres, et pourquoi pas avec les Kennedy.
Contrairement à son épouse, dont vous faites un portrait délicieux et très sympathique, ça donne envie de la connaître, Maurizio Gucci est décrit comme quelqu'un d'assez timide. Est-ce qu'il avait, au fond, lui, l'étoffe pour reprendre les rênes de cet empire de la maroquinerie Gucci?
Il n'était pas exactement le candidat idéal, mais il était un homme très attentif à ce qu'il allait faire, mais il a eu sur place, dès le moment où il est arrivé, des ennemis mais qui ne pourront jamais le supporter. Tous les oncles qu'il pouvait avoir, les cousins, etc., se voyaient tous au premier rang de la maison. Et comme il n'était pas très estimé par son père au départ, son père Rodolfo, on lui reprochait de ne pas avoir assez de métier, de ne pas être né à New York, et de ne pas être l'oncle Aldo, qui était un petit peu le géant de l'aventure Gucci à cette époque-là.
Alors, vous le racontez dans votre livre, Yann, quand Maurizio Gucci est assassiné, c'est pas la première fois que les Gucci font la une des journaux. Ils offrent à la presse un véritable feuilleton familial pendant des années. On les surnomme même le clan des Siciliens. Qu'est-ce qui se passe entre les différents héritiers exactement?
Alors en fait, si vous voulez, c'est une discussion sur les compétences parce que Aldo, qui est en fait le chef de famille, a un fils, Paolo, et ce Paolo déteste son père et le père déteste son fils. Donc ils sont à des rangs égaux de problèmes. Et le gentil fils Paolo va avoir une idée tout à fait merveilleuse qui est de lancer des parfums, ça il a eu tout à fait raison. Mais ensuite, il oubliera de le dire qu'il va lancer Paolo Gucci Parfum, qui deviendra une société. Il n'en a pas prévenu son père. Et il va faire mieux encore puisqu'il va indiquer ensuite au trésor public, puisqu'il y en a un aussi en Italie, que son père détourne des fonds très importants et il va le faire citer devant les tribunaux. Il ne va pas s'en tenir là, puisqu'il sera également celui qui va démolir le côté beau garçon et parfait patron de Gucci, qu'est son cousin Maurizio Gucci, il va intenter une procédure contre lui en apportant des éléments très précis à tout ce qui est trésor public.
Rappelons, puisque vous êtes le spécialiste aussi des grandes dynasties du luxe, Guccio Gucci, le grand-père de Maurizio qui a fondé en 1923 cet empire de la maroquinerie de luxe, quelles sont les pièces incontournables? Bon, il y a ce drapeau, enfin ce sigle, enfin le double G, et puis il y a ce bandeau comme ça avec
de rouge et
de vert. Quelles sont les pièces incontournables?
Alors, pièces incontournables, c'est d'abord une sorte d'image d'élégance qui est une élégance citadine, une élégance qui peut être campagnarde, mais qui est aussi portée sur les bateaux, puisqu'ils sont fous de bateaux, vous l'avez rappelé dans l'historique, bien sûr.
Mais sur un Riva uniquement, rassurez-vous, pas n'importe quel bateau.
C'est un Riva, mais ce sera ensuite, pour Patricia Reggiani, qui est un tout petit peu difficile sur les bateaux, le bateau de Niarchos. Donc évidemment, on ne pouvait pas trouver plus long, 70 mètres pour un trois-mâts. Elle est très heureuse là-dessus, et bien sûr, ce sont ses filles qui en hériteront. Mais il y aura toujours, si vous voulez, une impression dans le prêt-à-porter d'absolue compétence sur le plan de la couture. On ne va pas se diriger vers les maisons de couture, on va être plutôt dans une image idéale de filles dans le cou qui vont être bien sous toutes les latitudes, que ce soit sur les rivas que vous avez évoqués il y a quelques instants, sur les trois mâts ou simplement sur le macadam de la 5e avenue.
Mais dans les années 70, on voyait les portefeuilles, les sacs à main, on les voyait de loin, bien avant... Les Lady Dior et les sacs...
Je pense que ça a été aussi un des problèmes de la maison, c'est qu'ils ont voulu tout faire en même temps. Alors on a hérité des chaussettes, des ouvre-portes, etc. etc. Oui. Donc c'était un peu moins bien qu'au départ. Les licences ont toujours perdu beaucoup de gens. Mais c'était exactement ça qui a, d'une certaine manière, beaucoup nuit à la marque Gucci dans les années 75-80, etc. Où il y avait une image qui était un petit peu... sur le plan d'un déclin quasi certain.
Quand Patricia Reggiani commandite le meurtre de son ex-mari, Maurizio, il est amoureux, il souhaite se remarier. Est-ce qu'après ce remariage, au fond, Patricia, elle risquait de tout perdre? C'est pour ça qu'elle s'est dépêchée.
Oui et non, elle ne risquait pas de tout perdre parce qu'ils ont deux filles. Alors, il faut se souvenir tout de même qu'il avait été un peu pingre, son mari, avec la pension alimentaire. Il lui avait donné 35 000 euros, ça ne suffisait pas à une journée, disait-elle. Mais elle est passée brusquement, quand elle était alors en prison, elle est passée à une rente annuelle de 900 000 livres sterling. C'est beaucoup. Mais ça lui a donné un peu d'appétit parce qu'ensuite, il y a eu 16 millions de livres sterling qui sont arrivés sur ses comptes. Donc c'était un petit peu à la suite de 1995, de la mort de son mari, elle avait ce que l'on pourrait appeler une certaine fortune.
Mais c'est-à-dire, on peut... Donc en fait, bien mal acquis a profité là. Elle a fait de la prison pour avoir commandité la mort de son mari, mais elle touche l'héritage quand même.
Ben, elle a touché quelque chose qui, d'après elle, lui permettait à peine de survivre.
Oui, je comprends.
Mais je pense qu'on peut tous verser une larme.
Oui, je pense aussi.
Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui...
Est-ce qu'on peut épouser ses filles, par contre?
Stéphane est intéressé.
Il
sont
encore
tout,
des
hein.
possibilités.
Ouais. Ah, il y en a une qui est née en 81, je crois.
Oui, la dernière en 80.
Oui, quasiment comme moi. Je vais tenter ma chance, peut-être. Est-ce qu'elle a fini par expliquer les raisons qui l'ont poussée à commanditer l'assassinat de son ex-mari?
Non, parce qu'elle a trouvé que c'était une justice qu'elle faisait, parce qu'il avait été infect à partir du moment où on est le père de deux enfants idéaux, d'après elle. Je ne les connais pas, je n'ai pas ce plaisir, mais je vous le laisse, bien sûr. Mais il y a quand même une hérédité qui est un petit peu sanglante, pourrait-on dire, je ne sais pas.
Mais oui, parce que dans vos dynasties de Jux, il y a aussi pas mal de l'argent, il y a d'autres dynasties aussi où on pratique aussi l'assassinat. Alors, les Gucci retrouvent les feux de l'actualité puisqu'il y a ce film House of Gucci de Ridley Scott, inspiré cette fois de cette folle saga familiale qui, ce film sort aujourd'hui. Adam Driver interprète Maurizio Gucci, c'est la chanteuse et actrice Lady Gaga qui a été choisie pour interpréter Patricia Reggiani, la Lady Gucci. On écoute.
C'était un nom synonyme de richesse, style, pouvoir. Que je vais avoir du succès. Gucci a besoin de son nom. C'est le moment de faire du ménage.
Vous pensez que la veuve noire est heureuse de voir à nouveau son nom dans la presse et...
Alors, on sait déjà qu'elle est folle furieuse de ne pas avoir été consultée par Ridley Scott. Il y a aussi un élément particulier qui fait que le film va attirer beaucoup de gens parce qu'il y a aussi Salma Hayek qui joue le personnage de Pina, donc une grande amie, paraît-il, de l'excellente Madame Gucci Reggiani. Et c'est cette Salma Hayek, comme vous le savez, est l'épouse de
François-Henri Pinault.
Oui, François-Henri Pinault. Voilà. Donc, elle va être aussi un personnage très écouté parce que dans la vraie histoire, Pina a une influence très, très importante puisqu'elle était voyante, se disait-elle. Et elle voyait, à mon avis, surtout les dollars arriver en grande quantité, livres sterling et euros tout confondu.
Mais écoutez, merci beaucoup Yann Kerlo. Je rappelle le titre de votre livre, Les dynasties du luxe, disponible aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui se jouent souvent à l'horizontale. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui Clémentine, oui, ils sont nombreux à lui être passés dessus.
Qui?
Vous nous racontez l'histoire du divan de Freud, un divan un peu poussiéreux qui vient d'avoir 130 ans.
Oui, par chance... nos auditeurs savent que je suis une vieille dame d'une grande austérité. D'ailleurs, je ne sais pas si je me serais allongée sur le divan de Freud. D'ailleurs, il ne s'appelait même pas Sigmund Freud, il s'appelait Sigismond, vous le saviez ça?
Oui,
c'était son vrai nom. Et c'est lui qui a 22 ans, c'est quand même étrange. Il a décidé de changer de prénom, de s'appeler Sigmund. C'est beau Sigismond pourtant. Pourquoi pas? Ça vous a déjà effleuré, vous, de changer de prénom comme ça? Bizarre. Bon, enfin bref, vous savez qu'en 38, il a fui Vienne pour Londres et il s'est installé au 20 Mercefield Gardens dans une maison qui a été transformée en musée à la mort de sa fille Anna, donc en 82. Et la pièce où il recevait ses patients est restée intacte dans son jus, il n'y a pas été touché. Et ce qui frappe d'abord dans cette pièce, C'est l'omniprésence du professeur Charcot. Vous savez que Charcot est le fondateur de la neurologie moderne, que Freud a suivi ses cours à Paris pendant 8 mois, alors que lui-même avait 29 ans. Et il avait commencé, Freud, sa carrière de médecin en s'intéressant à la sexualité des andilles.
Des andilles.
La sexualité des anguilles.
Ah, oui. Et non pas des endives.
Non, des anguilles.
Remarquez,
c'est peut-être intéressant aussi. Mais lui, il a passé de longs mois à rechercher des testicules chez l'anguille mâle. Et en fait, son idée, c'est qu'il pouvait devenir un éminent biologiste et il hésitait tellement dans son choix professionnel qu'il a, il a quasiment pris 3 ans de plus que le commun des mortels médecins à devenir médecin. Mais bon, quittons les testicules d'anguilles et revenons au salon londonien de Sigismond. Au-dessus du célèbre divan, il y a une gravure intitulée une leçon de Charcot à la Salpêtrière. C'est en fait d'ailleurs plutôt une peinture d'André Brouillet en 1887. Et on y voit le neurologue français qui essaie d'hypnotiser une femme hystérique. Freud avait été très 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 impressionné par Charcot. Il était bluffé par ses talents d'orateur, par le contenu de ses travaux. Et Charcot a rapidement repéré Freud puisqu'il lui a demandé de traduire en allemand le 3e tome de ses recherches sur le système nerveux. Et c'est également Charcot qui semble avoir transmis à Freud sa passion pour les antiquités. Toujours dans le même bureau, la même pièce chez Freud à Londres, il y a une dizaine de divinités égyptiennes, chinoises et romaines. En 1885, Freud écrit « Aucun homme n'a jamais eu tant d'influence sur moi que Charcot ». Et en 86, il écrit qu'il rêve d'égaler ce grand médecin qui vit dans un musée. Et comme Charcot, il va accumuler les statuettes du même genre de façon compulsive. S'est-il allongé sur son propre canapé pour trouver l'explication de cette collection compulsive ? Rivalité avec le maître, sentiment de frustration. Quoi qu'il en soit, la collection de Freud de statuettes, vous savez combien il y en a ? Dites un chiffre.
140.
3000. Ah non, mais vous êtes petit joueur. Non, 3000 statuettes. Et alors, dans un coin de la pièce, il y a aussi une gravure qui représente le forum romain. Alors là, on voit, on comprend le message. Hein, c'est une comparaison entre l'archéologie, l'exploration des ruines, les profondeurs du passé et la psychanalyse qui explore la psyché du malade afin d'exhumer les trésors enfouis au tréfonds du tréfonds. Et enfin, voilà, la pièce maîtresse, c'est le divan. Et le divan, c'est une innovation 100% freudienne. Mmh. Celui de Freud lui a été offert donc en 1891 par Madame Benvenisti, une patiente viennoise qu'il avait prise en charge et soulagée. C'est un divan en crin, recouvert de tapis nomades cache-caille, offert par un cousin de Freud, et dont les motifs et les couleurs évoquaient selon Freud l'univers du rêve. Et le canapé est agrémenté de coussins de velours de couleurs différentes, c'est très beau, hein. Il a eu l'idée de faire s'allonger ses patients parce qu'il était persuadé qu'on se livrait davantage lorsqu'on était couché. Donc il s'asseyait, la tête du lit, il ne voulait pas que ses patients le voient. Lui, il parle très peu pendant les séances, qui durent 55 minutes. Et il tenait beaucoup à ce canapé, il l'a emporté partout au fil de ses déplacements et déménagements. Ce canapé qui est toujours à Londres, dans l'appartement de Freud, il a accueilli notamment Sergueï Pan, qui est Jeff, dit l'homme au loup, qui fut la plus longue cure psychanalytique de Freud, puisqu'il s'allongea sur son divan de 1910 à 1914. 14, hein, ça en fait de la consultation.
Merci beaucoup Clémentine.
Vous restez avec nous Clémentine.
Vous aimez être allongée sur un divan, une sorte de dalisque.
Non, maintenant il va falloir
comme
se relever.
Comme la comtesse Jabirovska, après je coupe les têtes de mes amants.
Vous faites ce que vous voulez, mais vous répondez aux questions que je vais vous poser. Ça s'appelle le quiz, enfin ça s'appelle plutôt Burn to be Alive. À tout de suite.
Europe 1, historiquement vôtre.
La fréquentation de Freud leur aura-t-elle permis de surmonter ce problème psychologique qui les mine depuis le début de la saison et qu'on appelle la peur de gagner ? Voyons ça en jouant à Burn to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous.
Oui, je sais.
Ricardo Francisco Eichmann a dénoncé les crimes de son père, Adolf Eichmann.
Ah oui.
Responsable de la logistique de la solution finale, ce dernier a été jugé en Israël, vous le savez, pendu. Ses cendres ont été données à son fils, qui a refusé de faire une sépulture pour que des nostalgiques du Troisième Reich en fassent un lieu de pèlerinage. Vrai ou faux ?
C'est faux, Stéphane.
C'est faux. Non, mais j'allais.
Il ne donnait pas la réponse !
Je pense que c'est faux.
Alors,
je...
autre question. Que sont devenues les cendres d'Eichmann ?
Je pense qu'elles ont été dispersées.
Tout à fait.
Où ça ?
En mer, je
en
crois.
Mer. Il y a trois possibilités. Ou en mer, ou en Allemagne, ou sur...
Ah non, en Allemagne. Bah, Allemagne. Il était à Jérusalem. On
alors
pas
sur le mont des
Patrick.
Oliviers.
Ça oh, mais pas du tout. Mais ça va pas la tête. Non, non. Elles ont été dispersées en mer, me semble-t-il, pour qu'il n'y ait absolument aucune trace.
Comme tout le monde a répondu à des questions, je refais une autre question. Ces cendres ont été dispersées en mer, comme vous le savez tous, comme nous le savons tous. Mais dans les eaux territoriales ou hors des eaux territoriales?
En dehors, évidemment,
en dehors,
il faut
bien
pas.
Sûr.
Ils sont
incroyables. Non, mais dites-vous, vous rendez compte, ce faucheton,
incroyable.
Il vient de dire que ça avait été dispersé au mont des Oliviers. Non, mais bien sûr.
Avec une assurance.
Alors là, il est extraordinaire.
Fou parce que, en extrapolant.
Alors on peut le disperser au mont des Oliviers, dans le coin le plus sacré de l'histoire d'Israël.
En extrapolant, quand vous voyez l'aplomb de Stéphane Bern, quand vous voyez l'aplomb dont il est capable, on peut imaginer dans les réunions en plus haut lieu à l'Élysée, quand on lui pose une question, et qu'il répond sur un sujet, oui, cette église, il faut faire ça. Mais oui, elle est du XIIIe siècle. On y croit. Quel acteur. Bravo, Stéphane. C'est une bonne réponse.
J'ai trouvé qu'il y avait un côté réparateur.
Ah, c'est vrai.
Vous voyez, un côté. Je trouve. Vous savez, il faut être dans le pardon.
Mais vous avez raison, Stéphane. Mais je pense que il est difficile d'être dans le pardon quand il y a une somme de douleur chez des survivants. Et c'est ce qu'ont dit les anciens combattants de la guerre de 40. Ils ont dit non, bien sûr, pour la paix en Europe, mais on ne va pas défiler avec les anciens combattants allemands, parce que ces gars-là ont flingué nos copains. Donc tant qu'on sera là, c'est non. Alors l'idée d'aller disperser les cendres d'Eichmann au monde et de Solivier, je pense que c'était un peu prématuré.
Donc, question numéro 1, un point pour Stéphane grâce au Mont des Oliviers. Enfin, pas du tout, mais bref. Question numéro 2, Clémentine Portier-Keltenbach, elle est pour vous. Je ne sais pas vous, Clémentine, mais moi, même si je côtoie au quotidien Stéphane Bern, eh bien, Alain Decaux me manque. Est-ce que...
Il nous manque et tout.
Mais bien sûr. Est-ce que le mythique présentateur de Alain Decaux raconte a connu les Panama Papers?
Alors, j'étais...
À l'enterrement?
J'étais à l'enterrement, oui. Et cet enterrement, c'était à mon avis il y a 5 ou 6 ans. Et les Panama Papers, est-ce que c'est plus récent? Non, je pense qu'il est mort juste avant.
Donc, votre réponse, c'est qu'Alain Decaux n'a pas connu les Panama Papers.
Vous avez gagné!
Alain nous a quittés en mars 2016 et les Panama Papers, c'était le 3 avril de cette même année. Ça s'est donc joué à très peu de choses. Les Panama Papers, c'est des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger ces gens qui font des investissements avisés? Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Le rituel du bain romain était particulièrement codifié. On se déshabillait à l'apoditerium, le vestiaire, puis on se baignait dans le bain chaud, le baculum, puis le caonicum, qui était le bain à vapeur. Vrai ou faux?
C'est très possible, oui. Parce que
je ne crois pas que ce soit le caonicum.
Mais je ne crois pas que c'est... Alors,
c'est le caldarium.
Attends. Je pense effectivement que les rituels sont ceux-là, mais que les mots que vous choisissez ne sont pas les bons.
Oui. Là, il y a une embrouille. Il y a une embrouille là-dessous, Stéphane.
Qu'est-ce qui vous fait douter de mon latin?
Je ne sais pas, votre
c'est
air.
C'est du latin de basse cuisine. Voilà. Vous ne savez même pas ce que vous lisez. Non, caonicum.
Un point en moins pour vous. Un point en moins, Clémentine. Ça vous apprendra à contester mon autorité.
Faux. C'est faux.
Vous dites que c'est faux?
Ouais. Vous avez gagné.
C'est faux. Enfin, tout est vrai. Sauf le baculum. Ce mot désigne l'os pénien que certains mammifères ont, comme le gorille ou le chimpanzé.
C'est
un os. Question numéro 4, Clémentine Portier-Keltenbach. Attention, vous avez un large
retard. J'ai un point de moins. Vous m'avez filé un point de moins.
Et c'est une question qu'Alain Decaux,
j'espère.
C'est une question qu'Alain Decaux aurait adorée, car elle est vraiment éminemment historique. Barbie est née en 1959. Je parle de la poupée, pas du criminel de guerre allemand. Ken, lui, est né en 1961. En 2004, Mattel a annoncé leur séparation officielle. Vrai ou faux? L'histoire des grandes familles, l'histoire des grands jouets, c'est aussi ça, historiquement vôtre.
Écoutez, alors là, je pense qu'un fabricant de jouets peut être assez démagogue pour montrer que Barbie et Ken allaient à l'image des couples
divorcés.
Mais du
coup, c'est Barbie qui garde la voiture, la maison et
l'avion.
Et en même temps, ça ne correspond pas à la mentalité américaine qui est toujours, malgré tout, très attachée à la famille, la fidélité. Je pense que c'est faux. On n'a pas pu faire divorcer Ken et Barbie. C'est trop cruel.
On
n'a
pas pu ?
Non, je pense que c'est faux.
Vous avez perdu.
Eh bien, c'est vrai, Clémentine.
C'est
comme quoi,
vrai.
Vraiment, vous vous posez comme une historienne. Quelle déception, quelle déception. En deux, pour tous vos fans. En 2004, Mattel lance Blaine, un surfeur plus jeune que Ken. C'est le nouveau mec
c'est
de Barbie. Oui, l'annonce de la séparation se fait juste avant la Saint-Valentin, opération marketing. Et en 2006, Ken revient dans la vie de Barbie. La production de Blaine est arrêtée. C'est ça aussi l'histoire, disait Alain Decaux.
Oui.
C'est une victoire triomphale de Stéphane Bern. Une réaction peut-être, Stéphane ?
Oui, écoutez, alors franchement, ce Reichmann au Mont des Oliviers,
oui.
Là, excusez-moi, mais je suis plutôt contente d'avoir perdu.
Ah
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures garanties, 100% feel good, puisque Stéphane Bern a sélectionné pour vous les histoires les plus fun ever. Comme aujourd'hui, ces époux qui ont été zigouillés par leur femme. Vous m'avez dit, Stéphane, avec votre rictus qui me fait peur.
On va se spoiler.
Il est temps de m'expliquer enfin en quoi.
Parce qu'il y a prescription, Mathieu.
Ah.
Tout ça s'est passé il y a très très longtemps, dans un siècle très très éloigné. Après Maurizio Gucci, je vous entraîne dans la Rome antique, à la rencontre de l'empereur Claude. Lui aussi, vous allez voir, son épouse lui a joué des tours, dont un dernier qui lui a été fatal. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un banquier qui vivait comme vous à Genève, mais qui n'avait pas tout à fait le même style de vie que vous.
Ah, parce qu'il était milliardaire, vous voulez dire ?
Non, parce qu'il était sadomaso.
Ah oui, bien sûr. Bah, ça aussi, c'est une sacrée différence entre nous. Aujourd'hui, je vous raconte Edward Stern, le banquier coquin qu'on a retrouvé un jour tout raide dans son costume en latex.
Sans oublier nos chroniqueurs, aussi. David Casselopez vous nous racontait les origines du string.
Les origines du string, tout à fait, qui permet d'être tourette quelquefois.
Oui, non, mais il faut dire à nos auditeurs, on va le dire Stéphane, on va jouer franc jeu. Moi, je fais le portrait un peu rigolo de la dernière partie. Il se trouve que vous connaissez bien Stern,
oui.
Vous l'avez, donc c'est très gênant pour vous cette
oui.
situation où je
oui.
m'apprête à raconter des choses un petit peu
voilà.
embarrassantes et vous êtes
exactement.
Là.
Exactement, je me dis comment
vous êtes
j'aimerais disparaître
ouais.
de
sous, la table,
sous la table.
Mais c'est probablement ce qui se passera durant ma chronique, on rassure les proches. Bah,
hein, voilà. Oui, voilà, si, ouais, s'il vous
fait.
Plaît.
Vous n'avez rien à voir là-dedans.
Béatrice, les enfants, Mathilde, tout.
Voilà, tous ces gens, vous oubliez.
C'est pas moi, c'est Mathieu Noël.
C'est moi, je suis le seul responsable aujourd'hui. Donc le string,
oui,
mon cher David,
oui,
d'où vient-il ? C'est vieux le string ?
Non, le string tel qu'on l'entend, c'est pas si vieux que ça. Ensuite, il y a des choses de l'Antiquité qui ressemblent un petit peu, mais on ira vite là-dessus, parce que c'est toujours un peu emmerdant l'Antiquité, c'est toujours pareil, c'est des Égyptiens, gna gna gna.
Les Égyptiens en string, tout un programme avec David. Olivier Pouls est avec nous également,
bah, pareil,
Olivier.
Pareil, il y a les Égyptiens, gna gna, ils mangeaient des capres. Bah, oui,
ouais, déjà ?
Oui, bah, déjà. Ouais. Vous doutez bien que cette plante, on ne l'a pas découverte la semaine dernière. Donc oui, c'est une vieille plante, mais c'est surtout un produit fantastique qui peut servir à plein de choses en cuisine. Et je vous donnerai des idées de recettes, puis je vous raconterai quand même un peu les origines de ces fameuses capres, c'est, on dit une capre. Mmh.
Une capre et pas un capre. Oui, c'est bien de faire un petit point comme
oui, c'est
ça,
bien,
musical,
oui.
avant, vous avez raison.
On ne sait
enfin,
jamais, parce qu'on les mange jamais seuls.
Ouais. Oui, c'est,
non, mais
c'est vrai.
Vrai
aussi, Stéphane, on n'y pense ouais. pas, mais c'est vrai. Enfin, nul doute, les amis, qu'Edward Stern aurait adoré l'ultime séquence de notre émission. La lutte finale, un quiz Bislard qui sont souvent au pugilat, on reste habillé, mais croyez-moi, c'est quand même assez dégueulasse. Pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Les histoires d'amour finissent mal en général.
Celle-là avait pourtant bien commencé il y a longtemps, très longtemps, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Au temps de la Rome antique, avec un homme qui semblait l'être tout autant, mais qui a fini assassiné par sa femme Agrippine. Stéphane Bern nous raconte l'empereur Claude.
Nous sommes à Rome dans la nuit du 12 octobre de l'an 54 après Jésus-Christ, au palais impérial du Mont Palatin, en surplomb du Forum et du Circus Maximus. Le banquet du soir bat son plein dans l'imposante demeure de l'empereur en place. Claude, fils de Drusus et d'Antonia le Jeune, descendant à la fois de la lignée d'Auguste et de celle de Marc-Antoine. Étalé de tout son long sur une banquette, n'a rien à voir avec le divan de Freud, appuyé sur un coude gauche, Claudius, quatrième empereur de la dynastie julio-claudienne, vous savez la lignée d'Auguste,
le premier empereur,
pioche avec enthousiasme parmi la pléthore de mets exquis qui défilent devant lui, de la viande, des terrines, des œufs, des gratins. Comme à son habitude, l'empereur, âgé de 64 ans, ne boude pas son plaisir. Sa réputation n'est pas usurpée, l'homme est un véritable goinfre. Un mets tout particulièrement à sa saveur, les champignons. Et justement, voilà qu'une assiette de beaux cèpes lui est présentée, il s'en délecte. Son épouse, l'impératrice Agrippine, en pioche aussi quelques-uns. Mais
quelques instants plus tard, Claude commence à se sentir mal. Mal à tel point qu'on fait appeler un médecin. S'inquiétant de ce qu'il a avalé, le praticien lui introduit une plume dans la bouche pour tenter de le faire vomir. C'est peine perdue. L'état de l'empereur s'aggrave. Il décède dans les premières heures du jour, sa veuve est pleurée à ses côtés. Que s'est-il passé? L'un des champignons qu'il a ingéré était-il toxique? Mais Agrippine, elle aussi, en a mangé. Et pourtant, elle n'a rien. C'est étrange. Ou suspect. Ceux qui sont proches du pouvoir savent que la veuve éplorée est en fait en disgrâce. Est-il possible qu'elle l'ait empoisonnée? Ben oui, c'est possible. C'est même ce que les historiens de l'époque s'accordent à dire. C'est elle qui l'a tuée. Comment? Ben, en empoisonnant un seul des champignons de l'assiette, à l'aide d'un poison préparé par les soins de Locuste, la plus célèbre des empoisonneuses de Rome. Et ce n'est pas le seul de ses méfaits ce soir-là. Selon Tacite, l'un des plus célèbres historiens de l'Antiquité, voyant que Claude était pris de diarrhée violente et craignant que le poison ne soit expulsé, elle aurait demandé à un complice de lui administrer une seconde dose, et cette fois au travers de la plume censée le faire vomir. Celle introduite par le médecin lui-même, qui était son complice, un certain Xénophon. Autant dire que le pauvre Claude n'avait aucune chance de s'en sortir. Il convient à ce stade de préciser que cette version des faits, si elle est la plus populaire, n'est pas pour autant totalement avérée. Comme souvent en histoire antique, difficile d'être tout à fait sûr de la vérité, l'épisode fait l'objet de beaucoup de débats chez les historiens modernes. Si l'on retient généralement à peu près cette version, c'est qu'Agrippine avait une bonne raison d'éliminer Claude. Il était, semble-t-il, sur le point de désigner son fils Britannicus comme héritier. Ce qui chagrinait Agrippine, puisque Britannicus était né d'une précédente union et qu'elle voulait faire monter sur le trône son propre fils Néron, né lui aussi d'une autre union et qu'elle avait fait adopter par Claude. Mais l'empereur n'était plus dupe de ce dessein. Quelque temps avant l'empoisonnement, il aurait même déclaré en public qu'il n'avait décidément pas de chance avec ses épouses, mais qu'il savait les punir. Ses épouses? Oui. Oui, Agrippine n'est en effet pas la première femme de Claude, c'est même la quatrième. Et au vu du sort réservé aux précédentes, Agrippine a bien du mouron à se faire. Les deux premières ont été répudiées, la troisième, Messaline, a carrément été exécutée pour l'avoir une fois de trop trompée. Agrippine, ayant eu vent des propos de son mari, a donc une bonne raison de le vouloir mort. De plus, Agrippine n'est pas du genre douce colombe. Certes, elle est jeune, de 25 ans de moins que Claude, mais elle est pour le moins rodée aux rudesses de la vie et aux intrigues de la cour impériale. C'est elle qui a manigancé pour que cette union se fasse, elle aussi qui est parvenue à le séduire dans un seul but ultime, se hisser, elle et son fils, au sommet du pouvoir. Il faut dire qu'Agrippine est allée à bonne école. Elle est issue de la dynastie des Julio-Claudiens, elle aussi. C'est la sœur de Caligula, la petite nièce de Tibère, l'arrière-petite-fille d'Auguste, et c'est aussi la nièce de Claude, entre parenthèses. Donc, voilà, elle avait épousé son oncle. Mais même si l'inceste est mal vu à Rome, cela n'arrêtera pas leur union. Rien ne saurait arrêter Agrippine, d'ailleurs. Marquée par une enfance difficile, elle est prête à tout pour prendre sa revanche et s'emparer du pouvoir. Son père, sa mère et ses deux frères aînés sont morts alors qu'elle n'était qu'une enfant des suites de cette mise à l'écart. Alors quand Claude se retrouve en l'an 48, veuf en même temps qu'elle, qui vient de perdre son deuxième mari dans des circonstances suspectes, là aussi, l'occasion est trop belle. Elle ne la laisse pas passer. L'occasion est d'autant plus belle que Claude a la réputation d'être un idiot. Si l'homme est plutôt beau, il souffre en revanche depuis l'enfance de tares physiques assez sévères. Il boite, il bégaye, il hoche compulsivement la tête, bave même. Sans doute a-t-il souffert d'une maladie infantile, peut-être, selon les historiens, la maladie de Little. Alors, se dit Agrippine, il sera sans doute d'autant plus facile à manipuler. Elle découvre pourtant en l'épousant qu'il n'en est rien. Les facultés intellectuelles de Claude sont intactes. Il semblerait qu'il ait même été un homme brillant malgré la légende noire que lui feront les historiens de son temps. La réputation d'un homme médiocre arrivé par mégarde au pouvoir et qui perdurera longtemps. On sait aujourd'hui que Claude s'est avéré un homme d'état compétent et plein de bon sens. Loin des excès de ses deux prédécesseurs, Tibère et Caligula, il a su choisir des hommes compétents pour ouvrir la voie à la conquête de la Grande-Bretagne par Rome. Lui également qui fit voter des mesures sociales en faveur des esclaves et qui fit construire de grands ouvrages utiles à la postérité. Son plus grand tort, semble-t-il, fut de s'être laissé trop facilement influencer par d'autres moins bien intentionnés que lui, et notamment des femmes. Il en fait définitivement les frais la nuit du 12 au 13 octobre de l'an 54. Rome aussi d'ailleurs en pâtira, car de cet assassinat découlera le règne tyrannique du fils d'Agrippine, Néron, qui, pour la petite histoire, je le rappelle, finira lui aussi par tuer sa mère, Agrippine. Ah, sacré Romain.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de l'empereur Claude, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste de l'Antiquité romaine. Ça tombe plutôt bien. Bonjour Pierre Combe.
Bonjour.
Bonjour Pierre Combe, vous êtes professeur à l'Université de Rouen et vous venez de publier avec d'autres historiens le tome 2 de Histoire romaine aux éditions Fayard. Tout d'abord, pourriez-vous nous rappeler le contexte politique chez les Romains au moment de ce règne de l'empereur Claude, justement?
Eh bien, d'abord, il faut préciser que Claude donc succède à son neveu Caligula, et Caligula a été le premier empereur assassiné. Il y en a eu bien d'autres après, mais Caligula est le premier. Il a en plus été assassiné à l'initiative de certains officiers de la garde impériale, donc ça témoignait quand même d'une certaine rupture entre l'empereur, les sénateurs, même la population de Rome et une partie de l'armée. Et donc, Claude doit s'employer à rétablir un certain consensus autour de sa personne.
Il hérite d'une situation difficile, quoi, hein,
oui,
dès le départ. Claude tue son épouse Messaline, Agrippine tue Claude, Néron tue Agrippine. C'est ainsi qu'on rend la justice dans la Rome antique, ça paraît...
Alors, dans les deux derniers cas, il ne s'agit pas de justice, hein, il s'agit clairement d'assassinat politique. Alors, il ne faut pas oublier que l'empereur est le justicier suprême de l'Empire, et dans le cas de Messaline, eh bien, Claude l'a fait exécuter parce qu'elle s'était rendue coupable d'adultère. En tout cas, c'est le motif qui était invoqué. Dans le cas de l'assassinat de Claude, enfin, l'empoisonnement de Claude par Agrippine, puis dans le cas de l'assassinat d'Agrippine par Néron, il s'agit clairement d'assassinat politique, c'est-à-dire c'était la volonté, alors dans un premier temps, d'Agrippine de prévenir sa disgrâce, hein, comme vous l'avez dit, en se débarrassant de Claude. Et dans le cas de Néron, il s'agissait d'éliminer sa mère, qu'il percevait de plus en plus comme un obstacle à son exercice du pouvoir. Là, il n'y a pas de justice.
Non, aucune.
J'ai expliqué dans mon récit que tous les historiens ne s'accordent pas sur le fait que Agrippine ait commandité l'assassinat de Claude. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses sur la mort de Claude ?
Alors, il était en mauvaise santé, hein, il était âgé pour l'époque. Évidemment, à 2000 ans de distance, on ne peut pas prouver l'empoisonnement, on ne peut pas reconstituer les causes de la mort. L'empoisonnement paraît quand même assez, l'hypothèse assez crédible, assez probable, mais il était de toute façon en mauvaise santé.
Alors, la mort de Claude parachève le projet d'Agrippine qui veut installer son fils Néron à la tête de l'Empire, mais que devient Britannicus ? Pourquoi ce n'est pas lui qui succède à Claude, son père ?
Alors, ça peut nous surprendre, mais il ne faut pas oublier que l'Empire romain, ça n'est pas une monarchie héréditaire où les empereurs se succèdent de père en fils. Dans le cas de la première dynastie, la dynastie julio-claudienne, ce qui compte avant tout, c'est la proximité avec Auguste, hein, ce que les historiens romains appelaient le sang d'Auguste. Et il se trouve que Néron est plus proche par le sang d'Auguste que Britannicus. Hein. Néron, c'est l'arrière-arrière-petit-fils d'Auguste par sa mère, alors que Britannicus, fils de Claude, n'est que l'arrière-petit-fils d'Octavie, la sœur d'Auguste. Donc, il est moins proche d'Auguste par le sang. Et donc, ça peut tout à fait expliquer que, il a été écarté au profit de Néron. Bon, ça n'aura peut-être pas été le cas si son père avait vécu plus longtemps, mais là, ça a été le cas.
Dans le récit, je disais que les historiens de l'époque, des historiens comme Tacite ou Suétone, qui nous ont donné des sueurs froides dans nos jeunes années... d'élèves latinistes, construisent une légende noire autour de la figure de Claude. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur déplaisait chez Claude ? Parce qu'ils le présentent comme un empereur médiocre, alors que visiblement, il était plutôt brillant.
Oui, alors il y a d'abord le manque de prestance physique, parce que ça compte ça quand même, hein, dans la société romaine, l'apparence. Donc vous l'avez dit, il boite, enfin bon, il manque de prestance physique. Il manquait apparemment d'éloquence.
Il bégayait.
Voilà, donc ça aussi, le desservait. Il n'avait aucun prestige militaire, hein, parce qu'en fait, avant de devenir empereur, il avait été tenu à l'écart, donc il n'avait jamais commandé une armée. Et en plus, alors devenu empereur, il a fini par éliminer certains adversaires politiques, notamment certains de ceux qui avaient trempé dans le complot qui avait coûté la vie à Caligula. Et donc, voilà, on le lui a aussi reproché. Donc, je pense qu'il y a tous ces éléments qui sont à l'origine de cette
légende noire.
Et aujourd'hui,
vous pensez que son action est réévaluée par les historiens ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de lire Tacite et Suétone. Oui. On déchiffre aussi des inscriptions. Il y a des témoignages archéologiques. Et là, on se rend compte qu'il a beaucoup fait pour améliorer le ravitaillement de la ville de Rome. Hein, il a construit notamment le port d'Ostie, il a construit un aqueduc. Et puis, il y a son grand discours retrouvé sur une inscription aujourd'hui conservée à Lyon, où il témoigne de sa volonté d'intégrer, d'associer au gouvernement de l'Empire les élites provinciales, notamment en faisant rentrer au Sénat de Rome des notables gaulois. Et donc là, il y a une politique, effectivement, dont le crédite aujourd'hui.
Alors, Stéphane l'expliquait, Claude est le quatrième empereur de la dynastie des Julio-Claudiens. Pendant combien de temps règne-t-elle ?
La dynastie Julio-Claudienne se poursuit encore après la mort de Claude pendant 14 ans jusqu'au suicide de Néron en 68. Ensuite, c'est fini parce que tout simplement, il y a plus de prétendants possibles au pouvoir parce que justement, les purges de Néron ont achevé de décimer la dynastie et il n'y a plus personne pour prendre la relève après le suicide de Néron.
Mais quelle leçon le lecteur contemporain peut-il tirer de l'histoire de l'Empire romain, d'après vous ?
Alors, c'est une vaste question.
Là, vous avez une minute. C'est un sujet qui en nécessite peut-être 24 heures.
Dans ce cas-là, autant se limiter peut-être à l'Empire romain de Claude. Oui. Je dirais ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de cet empire à associer les peuples vaincus, les élites en tout cas des peuples vaincus, au gouvernement de l'empire, ce qui en fait un modèle d'empire un peu original, différent des empires coloniaux qui ont pu exister plus tard. Là, il y avait une possibilité, même après des guerres sanglantes, pour les chefs vaincus, au bout de quelques générations, de parvenir au gouvernement de l'Empire. Je pense que, c'est peut-être une des leçons qu'on peut retenir.
Merci beaucoup, Pierre Combe. Je rappelle que le tome 2 de l'ouvrage « Histoire romaine » que vous co-signez est disponible aux éditions Fayard.
Merci à vous.
Je vous remercie.
Merci.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces hommes dont les épouses ont raccourci la vie. Après Maurizio Gucci et l'empereur Claude, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un célèbre banquier qui lui aussi a malheureusement connu une mort brutale, Edward Stern.
Généralement, Stéphane, les banquiers sont chiants. La preuve, la plupart font ça quelques années avant de faire autre chose ensuite, comme le président de la République par exemple. Jamais je ne me permettrai de vous parler d'un banquier pendant 7 minutes, on s'endormirait. Sauf, évidemment, si ce banquier est aussi un amateur de pratiques sadomasochistes, aimant se faire dominer et s'habiller en latex. Le 1er mars 2005, Edward Stern, banquier star, 38e fortune de France, est retrouvé mort à son domicile dans une combinaison sadomaso en latex. Alors oui, si des parents nous écoutent avec leurs enfants rentrant de l'école, éloignez-les immédiatement du poste et flanquez-les devant la patrouille. Ce qui suit est totalement inadapté à leurs chastes oreilles, comme la fois où Stéphane Bern avait lu les carnets de Julien Green. On va commencer par un rapide portrait d'Edward Stern de pure forme, puisqu'on s'en fout, c'est le côté bandage de l'affaire qui nous intéresse. Un top ! Né le 18 octobre 54 à Paris d'une famille d'ambassadeurs et de banquiers, je grandis dans un hôtel particulier au pied de la Tour Eiffel avant de faire Sciences Po, l'ESSEC, un stage chez Rothschild, avant de reprendre la banque de mon père que j'évincerai également. J'étais divorcé, j'avais 3 enfants, je pesais 1 milliard d'euros. On me surnommait le banquier de Sarkozy et je suis mort suspendu à un crochet à urette. Edward Stern, bonne réponse Stéphane, bravo. Oui, je vous avais dit d'éloigner les enfants, car vous l'avez compris.
Je m'éloigne.
Vous l'avez compris, derrière le banquier ultra smart se cachait un coquinou, un libertin, dirait Stéphane, un dépravé, dirait ma mamie. Nous sommes le 1er mars 2005 au matin, Edouard ne se présente pas au bureau, il est injoignable. Dans une entreprise normale, on pense panne de réveil, on reprend un macchiato avant de démarrer la première réunion marketing de la journée. Dans le monde d'Edward Stern, ses employés se ruent à son domicile, demandant le double des clés à la femme de ménage, afin de vérifier que tout va bien. Très vite, ils se rendent à l'évidence, tout ne va pas bien. Edouard est là, au pied de son lit, mort, vêtu donc d'une combinaison en latex noir. Alors par pitié Stéphane, si vous mourrez un jour, faites en sorte de ne jamais être vêtu de la sorte, au cas où je serai celui qui découvre votre corps. Psychologiquement, je vous le dis, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais je ne pourrai jamais me remettre de vous avoir trouvé en latex. L'autopsie,
il y a peu de chance.
L'autopsie révélera que le banquier a été tué de 4 balles. Qui ? Comment ? Pourquoi ? Rapidement, le regard des enquêteurs se tourne vers une certaine Cécile Brossard. On découvre qu'en dépit d'un nom qui la prédisposait plutôt à préparer des gâteaux au yaourt pour la kermesse de fin d'année de ses 7 enfants quelque part en Sologne, Cécile Brossard est en réalité une amante diabolique. Un soir, un de ses amis galeristes organise un dîner, elle y fait la connaissance d'Edouard Stern. « Il est chiant ton banquier », dit-elle à son pote. Hasard, le banquier entend cette réflexion, ça pique son ego, aussi sa curiosité, et comme il est un peu maso, pas qu'un peu d'ailleurs, on le verra, il se procure son numéro et l'appelle dès le lendemain. Très rapidement, Cécile devient sa maîtresse, mais une maîtresse un peu honteuse de celle qu'on cache. Il ne se voit qu'à son domicile Genevois, où Cécile initie Edouard à un pan de la sexualité qu'il n'imaginait même pas. Cuir, latex, jouets, pinces, cravache. Bientôt, elle le sent prêt à passer à la vitesse supérieure et lui propose d'essayer les soirées multijoueurs.
Personne ne peut refuser une bonne partouze.
Et voilà notre banquier lancé dans le grand bain de la sexualité de groupe avec ses codes si particuliers.
Il y a des mini pizzas, des parts de fougas et des doigtés dans l'arrêt.
Pardon ?
Des bouchées à l'arène. Non, non, tu as dit doigté dans l'arrêt.
Pourquoi t'aimes ça ?
Entre, c'est comme ça que moi, c'est, je connais les soirées échangistes uniquement à travers ce sketch de Cad et Valérie Lemercier. Entre deux soirées coquines, les relations entre Edouard et Cécile ne sont pas au beau fixe. Disons-le, ils vivent, s'il est coutume d'appeler, une relation toxique. D'autant que Stern est le prototype du pervers narcissique, nous dit-on, alternant entre manifestations d'amour et de haine. Selon l'humeur, il la surnomme Petit Lapin pour la traiter, je cite, de salope le lendemain. Mais faisons un bond en avant et revenons au meurtre. Elle est donc, pour la police, la suspecte numéro 1, cette Cécile Brossard, puisqu'on la voit très nettement sur les vidéos de surveillance du parking de l'immeuble de Stern. Lorsque Cécile Brossard est interrogée, elle admet avoir vu Stern ce soir-là, en précisant qu'il était déjà mort et que, de peur qu'on l'accuse de meurtre, elle aurait pris la fuite dans un élan de panique. Pour asseoir son propos, elle ajoute même avec aplomb « Il était criblé de coups de feu !» Et non, et non. Quel dommage, Cécile, tu étais presque, c'est perdu. En bonne amatrice de latex, tu aurais dû le savoir. Sous le coup de la chaleur, les trous de la combinaison se sont rebouchés juste après les coups de feu. Et oui, Jamy, c'est seulement à la morgue qu'on découvre les impacts de balles sur le corps de la victime, pas avant. Les policiers le disent à Cécile, qui s'effondre et passe aux aveux. Elle aurait voulu quitter Edouard Stern, il aurait refusé et lui promet alors $1 million en gage d'indépendance. Sauf que, quelques jours plus tard, il change d'avis et fait placer cette somme sous séquestre judiciaire. Cécile s'agace, elle vient chez lui pour s'expliquer, ils discutent dans la cuisine en buvant du coca, dit-elle, quel rat avec ce qu'il gagne. Rapidement, il migre vers la chambre à coucher. Elle raconte « Nous sommes restés un bon moment sur le lit à nous regarder. Soudain, l'attitude d'Edouard a changé du tout au tout. J'ai remarqué qu'il avait envie d'avoir un rapport sexuel avec moi. Il s'est approché, il a mis la main sur ma jambe et m'a dit qu'il avait envie de mettre sa combinaison en latex. Mais mets-toi à l'aise, mon grand, t'es chez toi après tout !» Lui, assis sur une chaise, les mains et les pieds noués par des cordes, elle en bottes noires, un fouet à lanière en cuir à la main. Pas de jugement, les faits, rien que les faits ici dans Historiquement Vôtre, on respecte toutes les pratiques sexuelles, fussent-elles de groupe, surtout depuis les dernières confidences de David hier.
C'est un truc que je faisais avec mes amis, oui. Et en fait, ça se faisait, on oui. faisait ça avec du cheddar.
Oui, oui, non, non, non. Alors, petit aparté, si vous venez d'arriver tout juste, chers auditeurs, vous êtes toujours sur Historiquement Vôtre, je suis Mathieu Noël, Stéphane Bern est là, il se cache sous la table, parce qu'évidemment, on parle de gens qu'il connaît très bien. Dis coucou, Stéphane.
Coucou.
Je ne fais que relater l'histoire avec un grand H, hein, celle que j'ai appris notamment dans la tribune de Genève. Je reprends. Où en étions-nous ? Ah oui, lui en latex, elle cravache en main, Cécile Brossard le fouette et là c'est la boulette. Débordé par l'excitation, Stern lui aurait lancé cette phrase, la phrase de trop, $1 million c'est quand même cher payé pour une pute. C'est là que tout bascule pour Edouard, puisque devinez ce qui va se passer.
Il a eu une MST.
Ah non, ça, il en a déjà une vingtaine, c'est pas la question. Non, il va mourir, Stéphane. Car Cécile voit rouge. Elle se met en quête d'un des nombreux pistolets que possède le banquier. Elle revient, lui tire dessus à 4 reprises. Elle est condamnée à 8 ans et demi de prison. Elle en fera 5 avant d'être libérée, pleurant encore la disparition de son partenaire de jeu. Elle déclare à ses médecins « Tuer n'est pas rompre. J'ai rompu avec la vie, mais pas avec Edouard. » Oui, elle est chelou. Ce qui est certain, c'est que nous avons tous tiré une leçon de ce récit glaçant. Ne jamais porter une tenue dans laquelle nous n'aimerions pas que nos collègues de travail nous retrouvent morts. Ok Stéphane, vous me le promettez, hein ?
J'ai jamais porté de cuir.
Eh ben ne commencez pas maintenant Stéphane. En tout cas, pour votre soirée de Noël, j'ai bien reçu le Bristol. Mais j'aimerais en savoir plus avant de vous donner ma réponse. Qu'entendez-vous exactement par Noël coquin ?
Vous êtes invité, on mettra le Jésus dans la crèche.
Bon, je vais encore réfléchir un petit peu alors, hein ? Laissez-moi le temps.
Mais... Elle a fait que 5 ans de prison pour
oui,
un meurtre.
Oui, elle s'en est bien tirée, dis donc, hein, la Cécile Brossard. C'est honteux, cette histoire.
Vous en parlez avec un air guiré alors qu'un homme est mort en laissant
c'est vrai,
sa femme
c'est
et
vrai,
ses enfants.
C'est vrai, surtout quelqu'un que vous avez connu, Stéphane. Oui, je oui. m'excuse et vous n'avez rien à voir avec ce portrait.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, à qui leurs épouses ont déjà dit au revoir juste avant.
pour retrouver des hommes modèles qui ne risquent pas, eux, d'être assassinés par leur compagne. Surtout celui qui sait cuisiner.
Ah bah oui, lui, elle a touché le gros lot quand même, ta femme.
Moi, ne s'en plains pas.
On l'embrasse. Ouais. Alors, Olivier, aujourd'hui, vous nous parlez des capres.
Oui, c'est les capres et les caprons même. Saurez-vous faire la différence?
Pourquoi, il y a femelle et mâle?
Non.
Il y a les gros, les gros avec une tige, là.
Mais on est sur le bon chemin.
C'est une question de tige, en tout cas, quoi qu'il en soit. David Cassé-Lopez, d'abord, nous entraîne aux origines du string.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut que je le dise avant de commencer, c'est une histoire hétérosexuelle du string, c'est-à-dire c'est la vision d'un homme qui parle des strings sur les femmes.
Vous avez peur de choquer?
Je ne sais pas, je préfère être prudent par les temps qui courent. Pour moi, c'est
un assez... homme blanc, hétérosexuel et catholique.
Exactement. Pour moi, c'est assez passionnant l'histoire du string parce que c'est un voyage dans l'évolution récente de la sexualité. Jusqu'à mes 20 ans, en gros, le string, c'était un truc de prostituée. C'était un accessoire porno qu'on voyait que dans Penthouse et dans les sex shops de Pigalle. Et puis, dans un élan qui m'a paru assez brusque, quelque part entre mes 20 ans et mes 26 ans, c'est devenu la norme. Toutes les filles portaient des strings tout le temps. Et il y a donc eu un court moment où c'était comme voir débarquer un accessoire ultra porno dans la sexualité de tous les jours. Et c'était génial. Et puis, bien sûr, à force que ça devienne complètement mainstream, eh bien, ça a un petit peu perdu de sa saveur, de la même façon que les nudistes qui voient des zizi toute la journée se retrouvent tristement immunisés contre les zizi. Mais, il y a peut-être un troisième âge du string dont je vous parlerai à la fin de ma chronique. En attendant, on a envie de savoir d'où viennent ces morceaux de tissu dérisoire qui se prennent pour des sous-vêtements, alors que bon, c'est à peu près comme rien du tout. Vous vous souvenez de ce monsieur dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission et qui s'appelait Ötzi?
Ötzi, bien sûr, c'est le mec dans la glace, dans prisonnier la glace, de la glace.
Cet homme mort il y a 5300 ans, dont le corps a été retrouvé super bien conservé dans un glacier en 1991. Bon, j'aurais adoré vous dire que Ötzi avait un string.
Bah oui, c'est pas ça que tu veux dire.
Mais Ötzi n'avait pas de string. Ah bon. Mais il avait ce qu'on pourrait appeler un pagnounet. Un petit pagne qui lui couvrait les fesses et le zizi, tout juste. C'était un petit peu, si vous voulez, l'ancêtre du string, mais aussi de l'ensemble des sous-vêtements. Le vrai string, en revanche, celui qu'on a tous en tête, il est infiniment plus récent puisqu'il date probablement de 1939. En 1939 à New York, il y a eu une foire internationale et le maire de la ville à l'époque, qui s'appelait Fiorello LaGuardia, qui a donné son nom à un des aéroports de New York, il a dit « Écoutez, on va accueillir des gens du monde entier pour cette foire mondiale, donc les danseuses nues qu'on a à New York, là, c'est fini, hein, faut qu'elles se couvrent les parties intimes. » Sauf que, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre Mathieu, quand on se couvre, on cesse d'être nu. Or, les gens qui vont voir des danseuses nues, ils ne veulent pas qu'elles soient couvertes, sinon ils vont voir Casse-Noisette ou ils restent chez eux. Et donc, les danseuses, elles ont trouvé une façon de contourner cette interdiction en portant des strings. Strings qui cachaient le devant, mais laissaient voir le derrière. Une façon, en quelque sorte, de respecter techniquement la loi, tout en trahissant l'esprit, un petit peu comme l'optimisation fiscale. En 1974...
Tu nous as fait un lien entre l'optimisation fiscale et le string, c'est magnifique.
En 1974, il y a un designer américain un peu d'avant-garde qui s'appelait Rudy Gernreich et qui a dessiné un bikini string. Et à partir du début des années 80, disons, c'est devenu assez facile de s'en procurer. Mais dans le monde occidental, c'est resté porno. La vérité, c'est que le seul endroit où ça a pris un peu en dehors du monde de la pornographie, c'est l'Amérique du Sud, et en particulier
le Brésil
où on avait tropical, des gens, la chaleur, la caliente. Sexualité. Ah. Caliente, pas du tout, ça c'est espagnol.
Ça ne va pas en Brésil. Hein.
Kent. En brésilien. Il y avait aussi certaines danseuses de ballet qui étaient intéressées évidemment par le string parce que ça permettait qu'on ne voit pas la ligne de leur culotte. Mais dans l'ensemble, je le dis, ça restait un accessoire porno. Jusqu'à ce qu'en 1998, il y a un événement que le Wall Street Journal a qualifié de tournant dans l'histoire du string, l'affaire Monica Lewinsky. Dans le rapport qui a été fait sur la question par le procureur, Kenneth Starr, on peut lire « Pour flirter avec le président à un moment donné, Mademoiselle Lewinsky a soulevé le bas de sa veste pour lui montrer les fils de son string qui dépassaient de son pantalon. » Et visiblement, cette phrase que tous les Américains qui suivaient l'histoire ont connue, elle a fait que les ventes de string ont explosé. Elles avaient commencé à augmenter les ventes de string au milieu des années 90, mais ça a explosé à partir de ce moment-là. Tout le monde voulait être un petit peu la Monica Lewinsky de son Bill Clinton.
Et cette explosion des ventes du string, moi personnellement, je n'en ai senti le souffle que quelques années plus tard. Mais vous le savez que moi, le règne sans partage du string, cet absolutisme de la ficelle, a depuis été attaqué par une fronde délicieusement réactionnaire qui a remis au goût du jour les culottes habituelles. Et aujourd'hui, d'après mes observations, il semble que la majorité des filles ait rebasculé vers ces sous-vêtements plus traditionnels. Personnellement, je pense que c'est l'idéal, c'est l'équilibre parfait parce qu'il reste une minorité de strings qui, du fait même qu'ils ne sont plus en majorité, parviennent de nouveau à surprendre et ont donc retrouvé du même coup leur charge érotique.
Tu croises beaucoup de meufs avec des culottes en ce moment, toi ? Faut que tu te réinscrives sur Tinder.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission des grands débats de société avec cette question, Olivier Pouls, que je vous pose. Comment distingue-t-on la capre du caperon ? Est-ce que la capre porte le string et le caperon le caleçon ? Dites-nous comment
non,
ça se passe.
Non, non, il n'y a pas, y a pas gros, un mâle et une femelle. Oui, oui, le caperon est gros, il a une tige, je vous le confirme, alors que la capre est toute petite et n'en a pas. Alors. Vous allez savoir dans un instant quelle différence il y a.
Avec vous, je vois toujours des doubles sens. Allez, droit au but,
Olivier. Il n'y a aucun titre dans tout ce que je raconte. D'accord, c'est purement et simplement du plaisir culinaire.
Et on dit une capre et un caperon.
Voilà. Une capre et un caperon.
Exactement. Alors, c'est un petit condiment. Utilisé comme tel aujourd'hui, issu d'un minuscule petit arbuste très résistant qui s'appelle le caprier. Alors les deux proviennent du caprier. Et alors la capre, n'est autre en fait que le bouton floral de ce caprier qui est récolté très 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 jeune. Et d'ailleurs, il y a différentes tailles de capres qu'on peut trouver. Ils sont en général classés. Quand vous les achetez, vous avez ce qu'on appelle les capres super fines, qui sont les toutes petites capres qui mesurent environ 6 mm, qui sont les meilleures, qui sont les plus raffinées en termes de goût, et qui sont aussi évidemment les plus chères, parce que tous ces capres sont ramassés à la main. Vous avez un format un petit peu plus gros, autour de 10 mm en général. Et puis vous avez les caprons. Donc, qui est les caprons, c'est franchement beaucoup plus grand, c'est 2 cm à peu près, et c'est une tige. Et bien, c'est quand on a laissé finalement les capres grandir, grossir, ça devient des caprons. Alors, c'est la même chose, mais pas au même stade dans son évolution. Ça se mange tout à fait. Ça se prépare à peu près de la même façon. C'est-à-dire que vous allez les trouver dans des petits pots qui sont mis dans des saumures vinaigrées. En termes de goût, c'est assez proche. La capre a un goût plus fin, presque un peu plus acide, un peu plus mordant, alors que le caperon sera un peu plus doux. Les caprons, ça s'utilise beaucoup aussi à l'apéritif. Ça peut remplacer les cornichons, par exemple, avec un petit peu de charcuterie. Vous pouvez simplement croquer des caprons. Alors, c'est quelque chose qui se mange, évidemment, tout au bord du pourtour méditerranéen. Il y a une île qui est très connue pour ses fameuses capres, c'est l'île de Pantelleria, île sur laquelle, vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher Stéphane, on cultive aussi de la vigne, et Carole Bouquet est propriétaire d'une très belle propriété là-bas, où elle fait des capres, des caprons et
de l'huile d'olive et de l'huile
d'olive. On en trouve également en Sicile, on en trouve un peu en France aussi, les capriers arrivent à pousser, ils ont besoin de très peu d'eau, d'un climat relativement... Et alors à Capri, probablement, je n'ai pas vérifié, mais il n'y a pas de raison qu'à Capri, on ne puisse pas faire pousser des capriers. Alors moi, je vous propose une petite recette un peu amusante, même pas, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis amusante, mais en tout cas délicieuse.
On rit quand on la fait.
Pas forcément.
Je prends des caprons, je suis
et
gay.
C'est sur des pâtes aux sardines et aux caprons.
Ah, tiens.
Voilà, et ça c'est très facile à faire. Vous allez prendre 400 grammes de pâtes que vous allez cuire al dente. Je vous confie cette mission, Mathieu, vous saurez bien faire ça.
Ah, ça je sais faire, c'est le seul truc que je sais faire.
Une boîte de sardines, des caprons, un peu de coulis de tomate, de l'huile d'olive, un citron et un peu d'olive noire. Tout simplement, vous récupérez l'huile de votre boîte d'huile d'olive, vous la faites chauffer, vous écrasez gentiment la sardine en gardant un petit peu de morceau, un peu de coulis de tomate, un petit jus de citron. Et on va aussi utiliser le zeste du citron parce que ça donne un petit peu de peps, c'est très intéressant. Des olives qu'on a dénoyautées, qu'on a coupées en petits morceaux. Évidemment, des caprons. On mélange tout ça avec les pâtes. Et on peut rajouter, pour le croustillant, un tout petit peu de chapelure. C'est absolument délicieux. Et voilà, capre, caperon, sardine, pâtes, à table.
Oh, c'est super. C'est beau quand vous parlez comme ça en style télégraphique. C'est très efficace. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, vous êtes capre ou pas capre ?
Oh, elle l'a faite.
Vous êtes prêts à vous affronter dans la lutte finale ? Eh bien, on y va.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, inutile de vous rappeler le principe, hein, je vous dis simplement qu'il y a une question pour vous départager en cas d'égalité.
Ah, mais en ce moment, il n'y a pas trop besoin
non,
de
c'est vrai,
de
ces derniers temps.
Oui, moi j'ai une chance sur 9, ils ont une chance sur
9. Oui, et moi je perds à tous les coups, comme ça au moins.
Alors Olivier, la première photo en couleur de l'histoire de l'humanité a été prise à Nemours, à Agen ou à Lyon?
Ah ben voilà, ah, il va être content, j'ai trois choix moi au choix.
Alors hein. Qu'est-ce que tu dis là, David?
Bon, alors là, une chance sur 3, parce que je n'en sais strictement rien.
Bah réfléchis. La photo en couleur.
Une photo en couleur, oui, de l'histoire de l'humanité.
Inventée par Charles Cros, qu'on embrasse.
C'était ma première chronique de l'année.
Et la réponse, la photographie couleur. La réponse était dedans?
La réponse n'était pas dedans, parce que ça peut se discuter qui c'est qui l'a inventé. Mais...
Ah!
Donc tu connais la réponse ou pas?
Je pense la connaître. Je pense la connaître.
Combien
je suis
tu
pas sûr. Mais je suis vraiment pas sûr, donc je ne pourrais pas la vendre.
Sinon, j'échange ma question.
Non.
C'est vraiment Magui et compagnie, ce quiz.
Bon, Lyon était une ville importante, mais c'était à Limoges.
Il n'y a pas Limoges, il y a Nemours, Agen.
Et là, bah, vous pouvez mettre le truc faux parce qu'il a.
Non, attendez. Non.
Eh bien, c'était
je le répète. Nemours, Agen ou Lyon?
Agen.
Oh non, il est bon. Oh non, c'est honteux.
1877, la photo est prise sur les hauteurs de la ville, on distingue clairement la cathédrale
ah,
5
après.
Très
bien.
Alors, vous avez une bonne réponse, bravo.
Il a dit Limoges.
Ah vraiment, bravo, Limoges, non, super, okay. On est bien.
Alors. C'était pas dans le choix, donc oui, ça peut pas être Limoges. David Castle-Lopez, Lord Richard Croft, en 1810, c'était un poète anglais très en vogue. On considère d'ailleurs qu'il est la première personne d'influence à avoir lancé la mode de faire un régime pour plaire, un régime voilà, pour perdre du poids. Vrai ou faux?
Non, je pense que c'est beaucoup plus... Enfin, ou alors c'est tordu comme question, mais non, les régimes c'est plus ancien que ça.
Oui, il y a l'ancien bien. Régime. Ouais, c'est...
Oui, c'est... Enfin, je veux dire, c'était bien d'être mince depuis... donc non, je dirais que c'est pas lui qui a lancé.
Bonne réponse. Bon, c'est pas tout à fait pour la même raison, mais...
Ouais.
Richard Croft, c'est le père de Lara Croft, l'héroïne des jeux vidéo. En revanche, Lord Byron a été le premier, évidemment, à mettre en vogue les régimes au 19e siècle. Oui. Avoir la taille fine pour plaire.
Oui, d'accord.
Mathieu, à l'origine, le Monopoly a été créé à des fins anticapitalistes. C'était pour prouver que la propriété foncière était antisociale et aggravait les inégalités. C'est du moins le but d'Elizabeth Maggi, la femme qu'il a inventée en 1903.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai ou faux?
C'est vrai.
On a fait cette chronique.
Ouais, c'est vrai.
En tout cas, elle voulait montrer les dangers du capitalisme. Alors, vous avez tous les trois une bonne réponse. Et il y a donc la question qui départage.
Allez.
Partons à Bellerin, dans la Meuse, en 2018, il y avait 34 habitants. C'est le dernier village à avoir eu une rue du Maréchal Pétain. En quelle année cette rue est devenue la rue de la Fontaine?
Ils l'ont débaptisé.
C'est la dernière ville.
Oui.
C'est choquant.
Oui, ça paraît.
Elle a dû être oubliée pendant un moment.
Oui, c'est ça.
Oui,
ça
c'est que plus personne n'y pensait. Puis ah tiens, j'habite rue du Maréchal.
Oui,
Pétain,
quand même. Là, et puis au bout d'un moment, quand même, allez, allons-y.
Alors,
moi je dis 1972.
Moi je dis 1960.
Et moi j'ai mis 1985. Grosse cote. Ouais.
C'est vous qui gagnez, Olivier.
Olivier, oh, Poulx, non, vous si vieux.
2013.
C'est impossible, Stéphane. Il devait pas y avoir une rue Pétain en 2012.
Il a fait du chemin depuis Limoges. Hein.
Ouais. Et oui, encore une édition particulièrement injuste du quiz se termine sur la victoire d'Olivier Poulx. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Lui aussi, il était extrêmement émouvant puisque consacré finalement à de pauvres bougres qui se sont fait trucider par leur femme. Stéphane, je ne vous demande pas lequel de nos personnages vous a le plus touché puisqu'on connaît la réponse. C'est quelqu'un, c'est le seul que vous connaissiez, sachant que vous ne connaissez pas l'empereur Claude.
L'empereur Claude, non,
vous l'avez peu connu à quelques années près.
Et sinon, Monsieur Gucci, non, j'ai dû avoir un portefeuille Gucci
quand même. Vous le confessez.
Que j'ai dû donner.
Parce que quoi?
C'est un peu voyant, quoi.
Ah oui, c'est voyant.
Les marques, j'aime pas trop les marques, parce qu'on voit de ce que c'est.
Qu'est-ce que vous pensez de Ami, par exemple?
Pas du tout, c'était pas dire que c'est pour vous dire mon amitié, évidemment. Vous me connaissez. À ce stade de l'émission, j'aime déjà me projeter dans l'après. Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane?
Demain, ciel, elles ont la tête dans les étoiles. On réunit les astronomes de l'histoire, Henrietta Leavitt, Caroline Herschel.
Et elle aussi a la tête dans les étoiles, elle sait même les lire, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Je vous raconte le destin étoilé d'Elisabeth Tessier.
Parfait, Mathieu, vous m'avez mis l'eau à la bouche si je puis dire. À demain les amis.
À demain Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.